Pendant ma détention, j'ai passé des journées entières sans lumière et avec très peu de repos. Mais le plus difficile, c'était la musique. Elle résonnait très fort, sans interruption. Avec le temps, le fait de ne pas pouvoir y échapper m'a complètement désorienté. J'ai perdu la notion du temps et tout sentiment de contrôle.
Ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait adapté du témoignage d'un ancien prisonnier de Guantanamo. Son récit est l'un des nombreux qui montre comment le son peut devenir un outil de torture. Bien que la musique soit l'une des expressions humaines les plus puissantes, capable de nous émouvoir et de créer du lien, une question se pose rarement. Que se passe-t-il lorsqu'un son cesse d'être un choix, lorsqu'on ne peut plus l'arrêter ni y échapper? Bonjour, je m'appelle Florence Lafontaine et je suis étudiante au baccalauréat en musique numérique.
Moi, je suis Lise Rivera, je suis étudiante de doctorat en musique.
Et moi, je suis Hicham, étudiant en psychologie. On a insisté de faire un épisode sur cette dimension justement pour vous montrer à quel point les mêmes choses que vous aimez le plus peuvent être instrumentalisées contre vous.
Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui est aussi fascinant que terrifiant. La musique utilisée comme torture. La musique, c'est un symbole pour plusieurs de plaisir, d'art, d'émotion, mais nous verrons que celle-ci peut nous désorienter complètement, nous faire stresser, nous torturer. Comment une expérience sensorielle positive peut-elle basculer comme ça? Que se passe-t-il dans notre cerveau?
Effectivement, on pense souvent que la torture, c'est un truc médiéval.
Oui, quelque chose de lointain et brutal.
Mais en réalité, la torture moderne existe, mais elle est souvent beaucoup plus subtile. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas nécessairement de la douleur directe, mais plus de la perte de contrôle sur soi. Cette perte de contrôle peut venir d'un simple son, pas besoin d'armes, pas besoin de coups, juste un bruit, de la répétition, une intensité qui sature ton cerveau, ton attention et ton corps.
Avant d'aller plus loin, ce serait utile de préciser ce qu'on entend vraiment par torture, non?
Dans ce contexte, on parle d'un usage intentionnel de la musique pour provoquer de la souffrance psychologique ou physiologique. Ce n'est pas juste une chanson qu'on n'aime pas, c'est une expérience sensorielle imposée. Et c'est là que la musique, ou même le simple bruit, devient un instrument de contrôle. C'est la même onde sonore, la même énergie vibratoire, mais utilisée avec une attention différente.
Puis cette idée que le son puisse devenir un outil de contrôle, ça sort pas de nulle part, hein?
En effet, au XXe siècle, la musique a cessé d'être seulement un art. Il est devenu un instrument de contrôle. En pleine guerre froide, la peur du lavage des cerveaux soviétiques pousse les États-Unis à financer des expériences sur la manipulation de l'esprit humain sans aucune trace. Dans des universités comme McGill, Yale ou Cornell, les chercheurs étudièrent les effets de l'isolement et de la répétition sonore.
Donc l'objectif, c'était vraiment de désorienter quelqu'un sans utiliser la force?
Effectivement, ces recherches ont contribué à la naissance de ce qu'on appelle la torture sans contact, une philosophie d'interrogatoire fondée sur une idée simple. Il n'est pas nécessaire d'employer la violence physique pour briser la résistance psychologique d'une personne.
C'est troublant de penser que des techniques aussi abstraites puissent être aussi dévastatrices.
Et pourtant, les sons. Ces méthodes ont ensuite été intégrées au manuel de la CIA et adoptées ailleurs dans le monde. À partir de 2002, elles réapparurent pendant la guerre contre le terrorisme, notamment à Guantanamo, Abu Ghraib et Bagram. En effet, des prisonniers furent soumis à une musique continue de Metallica ou à la chanson pour enfants « Barney, I love you ».
Donc ce contraste, ça montre bien que c'est pas la musique elle-même qui trouble, mais la manière dont elle est imposée.
Et c'est justement cette manière de l'imposer de façon inévitable, imprévisible et continue qu'a transformé la musique en un outil de torture. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces pratiques existent encore dans l'entraînement militaire et les armes de dissuasion de foule.
Évidemment, pour des raisons éthiques, on ne peut pas étudier la torture sonore directement en laboratoire. Par contre, la littérature scientifique nous offre plusieurs modèles qui permettent de comprendre ce qui se passe lorsque le son devient une source de stress. Même si ces études ne parlent jamais de torture, elles révèlent comment certains environnements sonores peuvent affecter profondément l'état psychologique et physiologique d'une personne. Regardons maintenant quelques résultats. Dormir semble naturel, presque banal, mais rester éveillé contre son gré provoque une réaction qui dépasse la simple fatigue. Une étude pilote, menée auprès d'adultes en bonne santé, met en lumière les effets neurophysiologiques et endocriniens d'une seule nuit sans sommeil. Après une nuit normale, puis 24 heures de privation de sommeil total, des participants ont passé des tests cognitifs, des IRM fonctionnels, puis des imageries PET au traceur 11C-raclopride, qui permet de visualiser le système dopaminergique dans le cerveau. Les résultats sont fascinants. Cette privation de sommeil aigu a entraîné une baisse nette des performances cognitives. Les participants avaient aussi moins d'énergie, de concentration et des temps de réaction plus lents. Mais paradoxalement, certaines régions du cerveau, comme le cortex préfrontal gauche, montraient une activité accrue, surtout le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Pourquoi ? Parce que la privation de sommeil fragilise surtout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, mémoire de travail, attention soutenue, capacité d'inhibition, et j'en passe. Donc le cerveau se met à pousser plus fort sur cette région pour maintenir un niveau de performance adéquat. Sur le plan hormonal, le cortisol, l'hormone du stress, commençait à diminuer progressivement, un signe d'un affaiblissement de l'axe HPA, qui est crucial pour la communication entre le cerveau et les glandes surrénales. Et finalement, au niveau neurochimique, ils ont constaté une altération du système dopaminergique, qui est essentiel à la motivation et à la vigilance. Cette altération est causée par la baisse drastique de l'efficacité des récepteurs D2 et D3 du striatum et plus globalement du système limbique. Donc en résumé, le préfrontal se fatigue, le système dopaminergique s'érode, l'axe du stress sature, on peut facilement voir comment dans un contexte d'interrogatoire ou de détention, la privation de sommeil rend la victime plus vulnérable. Maintenant, je vous laisse imaginer si on combinait privation de sommeil avec de la musique désagréable. Louis, tu t'y connais assez bien sur le stress induit par le bruit. Peux-tu nous en dire plus là-dessus?
Merci, c'est vrai Hicham. L'exposition prolongée au bruit déclenche également une réponse de stress systémique. À l'université Mayence, des chercheurs ont exposé des souris à des sons intermittents reproduisant le trafic aérien, tandis qu'un groupe témoin recevait du bruit blanc continu au même volume lors des séances de 12 heures par jour pendant 1, 2 et 4 jours. Dès les premières 24 heures, le système de stress s'est activé. La pression artérielle et les hormones du stress comme l'adrénaline et la noradrénaline ont augmenté. Après 4 jours, la pression systolique demeurait élevée et les vaisseaux perdaient leur capacité à se détendre. Au niveau cellulaire, les chercheurs ont observé inflammation, stress oxydatif et altération de l'enzyme ENOS qui, au lieu de produire du monoxyde d'azote, générer des radicaux libres endommageant les tissus vasculaires et cardiaques. L'analyse génétique montre que les bruits activent des voies liées à l'inflammation, au tonus vasculaire et au stress, comme si l'organisme entrait dans un véritable état d'alerte face au bruit. Aucun de ces effets n'est apparu chez les groupes témoins exposés au bruit blanc. Cela montre que les réactions observées ne proviennent pas du volume sonore, mais de la nature même du bruit des trafics aériens plus intrusifs et imprévisibles. Dans un contexte où le bruit est continu, prolongé et sans possibilité d'y échapper, comme dans la torture acoustique, les réactions biologiques observées dans l'étude de stress, d'inflammation et de dysfonction vasculaire pourraient être encore plus sollicitées.
Merci Louis et Hicham d'avoir amené ces articles scientifiques qui posent vraiment des preuves sur les curiosités qu'on avait par rapport à la musique comme instrument de torture. Maintenant, j'ai eu la chance de m'entretenir avec une spécialiste du journalisme scientifique et aussi une amatrice de heavy metal, Emily Conning, et on a quelques extraits à vous présenter.
Je suis revenue aux études pour juste un semestre, donc j'ai pris le micro-programme de journalisme et communication scientifique à l'université Laval. C'est un micro-programme de deuxième cycle pour me remettre dans le bain de la science et faire après du journalisme, de la recherche en sciences pour des buts de communication. Et dans le cadre d'un cours, c'est ça, j'ai un devoir de fact-checking, donc de vérification des faits, et l'une de mes premières idées était justement cette croyance que la musique métal, heavy metal, rend les gens violents et agressifs. Je suis moi-même amatrice de heavy metal, donc je connais un peu ce milieu-là, puis le public qui va avec. Ça me fait toujours rire d'entendre les gens qui disent que le métal, ça rend les gens violents, alors que quand on met les pieds dans un show de métal, tout le monde est copain, c'est vraiment bon enfant, il y a vraiment aucune agressivité parmi cette communauté-là. Avec les petites recherches que j'avais faites, il y a des articles scientifiques qui montrent que justement, les gens ont un effet de justement, ils perdent toute agressivité ou ça aide justement à libérer l'anxiété, ce genre de choses.
Pour vous, c'est quoi les sources de justement ce mythe de dire que le métal est néfaste et rend les gens violents?
Je pense que ça vient du fait que c'est une musique que les gens comprennent pas forcément aussi. Puis il y a toute cette culture de s'habiller en noir en général. Les gens sont avec des clous, puis habillés en noir. Hein. Les paroles peuvent être parfois très très sombres aussi. Je pense que c'est plus une incompréhension en général qu'autre chose, et puis qui se perpétue aussi. C'est de la musique qui peut être complexe à aborder. Les gens qui sont pas amateurs, ça peut être difficile de rentrer dans ce monde-là parce que c'est vite très complexe. Puis quand on parle de métal, il y a tellement de styles de métal aussi que si tu commences directement avec du death metal ou du hardcore, ça va être plus difficile en effet. Bah, je vais être honnête, moi j'ai un ado à la maison qui écoute aussi du heavy metal. Je l'ai un peu contaminé d'une certaine façon. C'est pas un ado plus violent que les autres ou qui va faire plus de bêtises que d'autres. Ou... Au contraire, en fait, je pense que c'est une communauté qui est relativement soudée au final. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire amateurs de métal. Et donc, c'est des gens qui vont se tenir ensemble et puis qui vont garder une communauté assez soudée. Il y a beaucoup de solidarité au sein de cette communauté-là.
C'est intéressant ce qu'Émilie nous dit parce que dans une revue narrative de la littérature publiée en 2022 par Kirk and Olsen, les risques et bénéfices de l'exposition à la musique heavy metal avec des thèmes agressifs, nous montre que la musique, c'est pas nocif en soi. Un même son peut être libérateur pour un fan et éprouvant pour quelqu'un qui ne le supporte pas du tout. Ce contraste révèle un point essentiel pour comprendre la musique comme un instrument de torture. Le dommage ne provient pas du genre musical, mais de l'expérience perceptive qui devient insoutenable lorsque le son est imposé, répétitif, incontrôlable et impossible à fuir. Autrement dit, ce qui transforme la musique en arme n'est pas ce qui est joué, mais la manière dont le cerveau est forcé de le vivre. Après tout ça, nous revient la tâche de dire le mot de la fin et conclure ce podcast. Je veux premièrement remercier mes collègues Hicham et Louis d'avoir fait d'autant bonnes recherches et de les avoir autant bien résumées et vulgarisées.
Il est surprenant que quelque chose qui est fortement connoté positif dans nos cultures soit utilisé pour faire du mal.
Personnellement, ça me fait réfléchir sur les limites que nous devrions imposer en tant que société sur les sons qui nous entourent, comme les bruits ambiants, les publicités, les notifications, etc., etc., etc.
Vraiment, puis ça m'amène à un concept, celui qu'on va pouvoir voir dans notre prochain épisode. Qu'est-ce que la paix sonore vaut vraiment, sachant qu'il y a des méfaits avec l'exposition sonore qu'on a étudiés dans ce podcast-ci? C'est à se demander si les quartiers en situation précaire, des quartiers plus ouvriers, sont encore plus pénalisés. Par exemple, Saint-Henri, Hochelaga, Montréal-Est maintenant. Est-ce que le bruit désavantage encore les habitants de ces quartiers? Est-ce qu'ils sont plus exposés à des sentiments négatifs et du stress? On va pouvoir voir ça dans un prochain épisode. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre attention.